et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission proposée par Michel Clément et Virginie Boer. La semaine dernière, nous avons évoqué le cheval au XIe siècle à travers sa représentation sur la tapisserie de Bayeux. Il nous était apparu que ce cheval dont la taille était d'environ 1,20 m au garrot tenait plus du poney que du cheval, tel qu'il est représenté dans les films ou séries se déroulant au Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution du cheval au cours de cette période de l'histoire et en particulier du destrier. Rappelons que le Moyen-Âge est une période qui s'étend de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle. Elle se divise en trois époques, le Haut Moyen-Âge du 5e au 10e siècle, le Moyen-Âge central du 11e au 13e siècle et le Moyen-Âge tardif des 14e et 15e siècles. Alors voici quelques repères. Le Haut Moyen-Âge voit l'unification du royaume des Francs par Clovis entre l'an 481 et l'an 1611, le développement de l'empire des Carolingiens, notamment sous Charlemagne, au 8e siècle. C'est au cours de cette période que se développa la cavalerie, que l'étrier fit son apparition en Europe, ainsi que la ferrure à clous. C'est au cours du Moyen-Âge central que les États européens actuels apparaissent. À cette époque, Guillaume le Conquérant prend le trône d'Angleterre à la suite de la bataille d'Hastings, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Cette époque est marquée par les croisades, mais aussi par de nombreuses innovations technologiques, dont l'apparition de la charrue, du collier d'épaule, qui permet l'utilisation de chevaux de trait, ainsi que celle de pièces d'armure destinées à protéger le cheval de guerre. Le Moyen-Âge tardif est marqué par une série de famines, suivie en 1347 par une épidémie de peste. La peste noire, venue d'Asie, va décimer environ 25 millions de personnes, soit 30 à 50% de la population européenne. C'est l'époque de la guerre de Cent Ans, de la guerre des Deux Roses en Angleterre qui verra l'ascension de la dynastie des Tudors, c'est l'effondrement de l'Empire byzantin. La cavalerie légère se développe aux dépens de la cavalerie lourde, le cheval arabe venant également améliorer les races européennes. Alors il existe plusieurs types de chevaux de selle au Moyen-Âge. Les plus connus sont le destrier, le palefroy, la hacnée, le coursier et le roncin. Le destrier est le cheval de guerre et de tournoi. Le palefroy est un cheval utilisé pour chevaucher agréablement. La hacnée est un cheval ou plus souvent une jument destinée aux dames. Le coursier est un cheval rapide, utilisé à la guerre, moins cher que le destrier. Le roncin est un cheval de travail, on pourrait dire un cheval à tout faire, utilisé également par les chevaliers les moins fortunés. Mais il demeure que le cheval reste le symbole d'une élite sociale. Le Moyen-Âge est une époque de conflit. Les souverains doivent pouvoir lever une armée et les chevaliers doivent être prêts à partir. Le coût d'un cheval est considérable. À l'époque des croisades, un destrier valait 7 à 8 fois le prix d'un cheval ordinaire. Au XIIIe siècle, les chevaux les plus chers proviennent d'Espagne ou de la région des Pouilles en Italie. À partir de cette époque, au cours des campagnes importantes, leur prix va connaître une véritable inflation. Les rois et les princes demandaient à tous ceux qui en avaient les moyens d'entretenir un cheval de guerre. Dans un acte de 1279, le roi Philippe III le Hardi ordonne à tous les chevaliers et autres hommes de bien d'élever une jument poulinière. Les ducs, comtes, barons et abbés, ayant suffisamment de pâture, devaient en élever 4 ou 6. Il fallait absolument constituer un cheptel. Cependant, les inventaires de chevaux de guerre en Angleterre révèlent que seuls 5% des chevaux de guerre étaient enregistrés comme destriers. Et ils n'appartenaient qu'à la petite élite des chevaliers les plus riches. Voilà pourquoi, à la fin d'une bataille, les vainqueurs n'hésitaient pas à s'emparer de ces chevaux de grande valeur appartenant aux vaincus. Revenons maintenant sur l'origine du nom destrier. Ce nom vient du mot « dextre » qui signifie « droite ». Car les écuyers tenaient les chevaux des chevaliers de la main droite quand ceux-ci ne les montaient pas, eux-mêmes tenant les rênes de leurs propres chevaux de la main gauche. Alors une autre hypothèse voudrait que la droite identifie en fait le galop à droite pris par les chevaliers lorsqu'ils chargent, avec le bout de leur lance passant au-dessus de l'encolure du cheval à gauche, côté protégé par un grand bouclier. En galopant à droite, la tête du cheval s'incline vers la droite et échappe à la lance d'un ennemi. Par ailleurs, cela donne un meilleur équilibre au cheval si son cavalier est touché à gauche. Les destriers et les coursiers sont des étalons élevés depuis leur plus jeune âge pour les combats. Ils étaient probablement séparés des juments et des poulains qui, eux, restaient au haras. Avant d'en savoir un petit peu plus, nous allons maintenant écouter le générique de Game of Thrones, cette série qui a largement puisé dans l'univers médiéval. Nous possédons de précieuses et nombreuses informations sur les chevaux de guerre royaux pendant le règne d'Édouard III d'Angleterre, c'est-à-dire de 1327 à 1377. Le roi avait en effet nommé des gardiens, keepers en anglais, pour veiller sur ses chevaux. Ces personnes ont tenu des registres sur lesquels ils notaient tout ce qui concernait leur entretien, depuis la nourriture, l'équipement, les salaires des palefreniers et des maréchaux ferrants, les médicaments et le matériel utilisé pour les soigner. Par exemple, on utilisait du vinaigre, du miel, du gingembre en poudre ou différents types d'onguents pour les soigner. Le régime des destriers se composait de plus de 9 kg d'avoine et de foin par jour, ce qui rendait les chevaux assez agressifs. En prenant en compte le volume d'avoine consommé, les chercheurs estiment que les destriers devaient peser plus de 750 kg. À titre de comparaison, les pur sang anglais modernes en font 453 en moyenne. Ce sont des chevaux de haute taille, mais attention, souvenez-vous, haute taille au Moyen-Âge veut dire entre 1m30 et 1m50 au garrot. C'est ce qu'a révélé une étude menée par les archéologues et historiens de l'université d'Aix-Tyr qui ont analysé plus de 2000 ossements de chevaux trouvés sur 171 sites de fouilles en Angleterre. Datés du 4e au 17e siècle, ces ossements nous apprennent qu'il faut attendre les 13e et 14e siècles pour voir apparaître des équidés qui fassent plus de 1m60 au garrot. Comme le souligne le chercheur anglais Alan Outram, les hauts destriers médiévaux étaient peut-être relativement grands pour l'époque, mais ils étaient clairement encore beaucoup plus petits que ce à quoi on peut s'attendre pour des fonctions équivalentes aujourd'hui. Les pratiques de sélection et d'élevage dans les haras royaux anglais se sont sans doute concentrées autant sur le tempérament et sur les caractéristiques physiques appropriées à la guerre que sur la taille brute. Il n'y avait pas que les chevaliers qui combattaient à cheval, mais également les archers et les arquebusiers. Les chevaux petits et légers rendaient les manœuvres plus rapides. Et il fallait également que tous ces cavaliers puissent remonter tout seuls en cas de chute, ce qui était impossible avec de très grands chevaux et quand on était en armure. Alors cette armure est importante. Le chevalier est également armé d'une épée et d'un écu, c'est-à-dire un bouclier. Il combat à la lance, l'épée n'étant utilisée que lorsque la lance est brisée ou perdue. C'est donc la lance qui dicte la tactique de la cavalerie. Ainsi, dans chaque combat, celle-ci se range sur trois rangs. En premier, les chevaliers encadrés de leurs écuyers, puis les sergents armés également de la lance et de l'épée, enfin les coutiliers et autres serviteurs montés et armés d'un simple bâton. Cette formation s'exécute derrière l'infanterie, protégée par les boucliers des archers plantés en terre. L'infanterie ouvre ses rangs pour le passage de la cavalerie, qui charge au galop, puis revient en désordre vers son infanterie pour préparer une nouvelle charge. Ce combat, basé sur la puissance du choc, cesse lorsque la cavalerie de l'un des deux camps est épuisée et doit abandonner la partie sous la protection de son infanterie. Il semble donc en effet que ce soit la force du cheval qui prime sur sa taille lors des combats. La robustesse et l'endurance étaient privilégiées. Les chercheurs estiment que la conformation idéale serait une arrière-main relativement courte, avec des postérieurs puissants, des os et des ligaments solides qui permettent aux chevaux de se rassembler et de s'arrêter rapidement après une charge rapide. Autre qualité recherchée, un tempérament calme et de la maniabilité. Au combat, la survie du chevalier dépendait donc de la puissance de son cheval, de sa rapidité, mais il fallait également protéger son intégrité. C'est pour ça qu'on a commencé à lui mettre des protections, et sa protection a évolué avec les armures. Les premiers harnois, c'est-à-dire l'armure du chevalier et du cheval, ne comprennent qu'un chanfrein, une pièce de métal ou de cuir bouilli, qui ne protège que le front entre les deux yeux et les narines. Il évoluera au XIIIe siècle avec l'apparition d'une têtière qui protège l'ensemble de la tête, y compris les oreilles. La houssure, l'étoffe qui couvre le cheval, n'a qu'un rôle décoratif. C'est à la suite des batailles de Bannockburn en Écosse et de Crécy en France au XIVe siècle, quand l'infanterie écossaise et les archers anglais s'attaquèrent aux chevaux, qu'apparaît la barde, c'est-à-dire l'ensemble des différentes pièces d'armure protégeant le cheval. La barde d'encolure est constituée de plusieurs plaques composées de lamelles articulées et fixées les unes aux autres par des rivets, protégeant ainsi le haut et le dessous de l'encolure. La barde de croupe protège l'arrière-main. Elle est fabriquée avec du cuir, des chaînes ou des plaques. Le flanc-soie protège les flancs. Il est constitué de plaques de métal ou de cuir rivetées qui sont fixées tout autour de la selle. Le plastron protège le poitrail. Cette armure est recouverte par un tissu de la queue au poitrail que l'on appelle le carapasson. Les rênes sont également protégées par une barde métallique afin que l'on ne puisse pas les couper. La barde est estimée au maximum à 32 kg. L'armure de guerre des chevaliers pèse habituellement de 18 à 32 kg. Et ce sont les armures de tournoi qui sont les plus lourdes, mais elles ne dépassent pas les 40 kg. Alors si je m'attarde sur ces armures, c'est parce qu'elles sont importantes. Car grâce à elles, on peut en prendre beaucoup sur le cheval de guerre au Moyen-Âge. Comme l'expliquent les chercheurs, ces armures fonctionnent comme des exosquelettes, c'est-à-dire un squelette externe qui protège l'animal. Les insectes et les crustacés ont des exosquelettes. Pourtant, cela n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Il est difficile de déterminer la longueur des jambes, par exemple, car les chevaux ne portaient pas de jambières. Les protections de la croupe et du poitrail nous donnent des informations sur la largeur du poitrail et de la croupe, mais pas sur la taille du cheval. Les bardes d'encolure étaient conçues pour s'allonger et se contracter en fonction du mouvement de la tête. Il n'y a pas de point fixe qui permettrait de faire des mesures. Par ailleurs, ces armures sont rares, ce qui rend difficile l'établissement des données. Cependant, de nombreuses protections des chanfreins ont survécu. Et elles s'ajustent parfaitement à la tête, dont elles ne sont séparées que par un petit peu de rembourrage. Cependant, les joues pouvaient être protégées indépendamment, et parfois ces chanfreins ne protègent pas le bout du nez. Donc, pour mesurer la longueur de la tête, cela peut être compliqué. Néanmoins, on peut enregistrer des données suffisamment fiables concernant la largeur de la tête et établir des mesures entre les yeux et les oreilles. Par ailleurs, en mesurant la tête de chevaux vivants et de races différentes, ainsi que la hauteur au galop, et en comparant les données relevées sur les chanfreins médiévaux, on peut voir se dessiner le cheval de guerre. À ce stade de leur recherche, les chercheurs de l'université d'Exeter confirment que certaines protections de chanfreins s'ajustent parfaitement à des chevaux de petite taille comme les poneys, mais d'autres sont plus grandes. À suivre. Ce n'est qu'en 1439, pendant la guerre de Cent Ans, que sont créées des unités de cavalerie dites compagnies d'ordonnance du roi. Cette décision marque un tournant. Au lieu d'être convoquée comme auparavant, la cavalerie est organisée de manière permanente. La disparition des destriers au combat est liée à l'apparition de la poudre à canon lors des guerres du XVe siècle. Dès lors, le cheval de guerre va devenir un cheval qui va passer du champ de bataille au manège où, sous la selle des aristocrates, il va briller en équitation classique. Voilà donc pour ce premier cheval du Moyen-Âge et nous vous parlerons des prochains dans l'émission de la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à toutes !